Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halud Mandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Bonsoir et bienvenue au Grand Dialogue. Ce soir, nous nous intéressons à la deuxième édition de la Semaine de la Jeunesse contre la Corruption qui a pris fin hier. Placée sous le thème « La corruption ne passera pas par moi », l'objectif de cette édition était de toucher directement 5000 jeunes et femmes. Contribuer davantage à la valorisation des principes d'intégrité et à la promotion des actions de lutte contre la corruption à travers l'implication des hommes et femmes de 18 à 40 ans. Pour parler de ces défis à relever, nos invités sur ce plateau, Dr Ishaka Kamara, sociologue, Bokar Baba Larab Touré, inspecteur du Trésor à la retraite, Baba Boubacar Keïta, vice-président de la communauté des pratiques en matière de lutte contre la corruption. Je suis Fatmata Togola.
Le Grand Dialogue.
Bonsoir et bienvenue. Alors, nous allons ouvrir les débats avec vous, Monsieur Keïta. Selon vous, qu'est-ce qui est la source, les raisons de cette corruption?
La source ou bien les sources?
Les sources.
Alors, les sources sont variées et multiples. Donc, c'est lié à beaucoup de facteurs. Et il y a d'abord la faiblesse de la moralité. Il y a les facteurs économiques. Il y a des facteurs sociaux aussi qui sont à la base de cette corruption. Donc, pourquoi les gens même sont corrompus? Parce que quand on n'a pas reçu une certaine personnalité face à certaines tentations, donc il n'est pas facile de dire non à des choses qui vous sont proposées. Donc ça, c'est alors la moralité de la personne. Et ça, c'est lié à l'éducation. Et l'homme étant un élément social, donc c'est cette société qui le codifie, qui le complexifie et qui le charge d'interdit. Souvent, si cette personnalité n'est pas bien assise, donc la personne peut être tentée à faire beaucoup de choses qui ne sont pas quand même séantes et qui ne sont pas orthodoxes. Donc ça peut être la cause, la moralité. Au-delà, et quand les besoins les plus essentiels d'un agent public ne sont pas satisfaits. Par exemple, un juge qui quitte sa maison et qui voit qu'il y a des problèmes financiers, donc face à la tentation, c'est très difficile souvent de refuser alors. Et alors, au-delà de ça, il y a les phénomènes de l'apparence, où les gens veulent se faire voir, avoir de grandes voitures, avoir des maisons, avoir des fringues qui sont très chères. Donc tout ça peut amener alors l'agent public ou bien n'importe qui à se livrer à ces phénomènes qui n'est pas très correct.
D'accord. Alors Monsieur Touré, qu'en pensez-vous?
Je voudrais dire bonjour. Il n'y a pas de société sans corruption. Mais la corruption, comme ça existe en Afrique, à un certain niveau, c'est à la limite, disons le mot, n'ayons pas peur de cela, c'est de la déchéance. Et qu'en réalité, au-delà de tout ce qui engendre la corruption et qui le perpétue, on n'appréhende pas le problème correctement si on ne le situe pas au sommet. Les gens s'ajustent. Moins le sommet est corrompu, moins le bas est enclin à être corrompu, n'est pas corrompu, ou bien résiste à la corruption. En fait, de quoi il s'agit véritablement? Comme il le disait tantôt, les raisons, les causes de la corruption sont multiples. Mais rassurez-vous qu'il avait dit une raison que l'on... qu'on dit souvent et qui en réalité c'est pas tellement tort, c'est-à-dire par rapport aux revenus, par rapport aux moyens, on dit que l'enseignant il n'a pas de bon salaire, il est tenté à faire des cours ou à vendre ses cours, le docteur n'a pas de salaire. Mais en réalité, quand on considère au sommet des outils africains, plus la personne a de l'argent, plus elle est corrompue. Plus elle a de, c'est-à-dire que l'appétit vient en mangeant, c'est comme on le dit, l'occasion fait le larron, c'est parce que c'est permis. Alors comment le diminuer? On ne le diminue que par rapport au sommet. Et tant que le sommet le dénonce et reste dans la dénonciation ou d'y prendre des mesures, en réalité, elle le perpétue, elle le protège. C'est dans la sanction que l'on finit. La vertu, c'est le réflexe. C'est dans la sanction qu'on finit par créer le réflexe contraire, de ne pas être enclin à détourner des ressources. Et ça, ça vient du sommet.
D'accord. Alors, Monsieur Camara, selon vous, quelles peuvent être les causes qui peuvent pousser les gens à ce phénomène-là?
D'accord, merci bien, Mademoiselle Togola. Et moi, je vais surtout insister sur deux facteurs essentiels. C'est vrai que je suis d'accord avec mes prédécesseurs que dans toute société, il a toujours existé la corruption en quelque sorte. On peut remonter jusqu'à l'Antiquité pour voir que ce phénomène déjà existait dans les sociétés. Mais qu'est-ce qui fait que le phénomène a tendance à se perpétuer ici au Mali? Je crois que c'est fondamentalement deux raisons. La première raison, c'est que les gens s'efforcent souvent d'énumérer les actes corruptifs. Mais les gens oublient même de définir la corruption elle-même en tant que phénomène. Je vais dire par là que quand nous prenons les grandes conventions à la matière, la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption, ou si vous voulez bien, la Convention de l'Union africaine sur la prévention, la lutte contre la corruption, quand vous prenez la Convention d'abord des Nations Unies, l'article 20 dit que l'enrichissement illicite est une forme de corruption, mais sans même expliquer qu'est-ce que c'est la corruption elle-même. Et j'avais tantôt parlé effectivement de la Convention de l'Union africaine également, dans son article 1, stipule que l'enrichissement illicite, au fait, est une forme de corruption, mais sans définir à proprement parler qu'est-ce que c'est la corruption.
Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que la corruption?
Effectivement, puisque je vais d'abord aborder la deuxième raison, puisque ça va de pair avant de donner la définition de la corruption. La deuxième définition, c'est là où souvent j'ai dit que dans nos sociétés, on a oublié. On ne traite plus la corruption comme étant un phénomène juridique, mais plutôt comme un phénomène socio-économique. Au fait, souvent, on calcule les coûts, les avantages, pour dire que petite corruption, grande corruption, corruption blanche, corruption noire. Au fait, c'était comme si on disait qu'il y a des formes de corruption qui sont tolérables. C'est ce qui m'amène à dire que la corruption, c'est en tout cas tout agissement et ça, que venant, si vous voulez bien, d'un agent, cet agent, il peut être un agent public comme un agent privé, qui consiste à agir de manière à bénéficier de quelque chose qui est indu. Voilà, à mon avis, cette définition englobe plus ou moins la chose. Et ça prend et la dimension socio-économique et la dimension juridique. Parce qu'il ne faut jamais qu'on oublie de pointer du doigt la dimension juridique. Parce que souvent, c'est vrai qu'il y a, comme je le disais, il y a beaucoup de formes corruptives au Mali que la population même tolère. Et puisqu'il est même d'usage, et là je parle de complaisance morale, de complaisance culturelle, et si vous voulez bien, ou bien de l'indulgence culturelle. Et ça consiste en quoi? On pense que l'ascension sociale d'un agent doit profiter à sa famille, à son clan, voilà, à tous ceux qui l'entourent. C'est ainsi que quand vous êtes nommé, par exemple, directeur quelque part, et si vous ne donnez pas du boulot, même au coq de la maison, ben on dira qu'il a été directeur pendant des années, voilà, son frère est en chômage, sa sœur est en chômage. En fait, la population, sociologiquement, a tendance à tolérer ces formes de corruption-là. Voilà pourquoi ce phénomène encore se perpétue au Mali, à mon avis.
D'accord. Oui, monsieur, vous voulez réagir par rapport aux propos de monsieur Camara?
Je voudrais, monsieur Kita, oui. Voilà, comme il l'a dit, pour quand même parler du phénomène, il faut d'abord les cerner. Il lui donner un contenu. Donc, par rapport à la corruption, les définitions sont multiples là-dessus, hein, mais il y a une définition qui m'a tellement plu. La définition que l'ONG Transparency donne par rapport à ce phénomène. Donc, en 1996, l'ONG Transparency International définissait la corruption comme étant le comportement des représentants du secteur public, qu'il s'agisse des politiciens, des fonctionnaires, qui s'enrichissent de manière incorrecte et illégale, ou qui s'enrichissent et qui enrichissent leurs proches en employant de manière abusive les pouvoirs qui leur sont confiés et qui leur est confié. Donc c'est la définition tacite que cette ONG donne quand même à ce phénomène qui est la corruption.
D'accord. Alors, M. Touré, M. Keïta vient de nous avancer quelques propos et les acteurs qu'il vient de nous citer étant des acteurs clés de la corruption. Pensez-vous que ce sont les seuls acteurs de ce phénomène-là?
Je ne le crois pas. Je ne le crois pas dans la mesure où, en réalité, on est, comme le dit... On est le fruit de sa société, de sa communauté. Et Rousseau disait que l'homme n'est bon, c'est la société qui le corrompt. Déjà, on voit la corruption. Quand il y a certaines pratiques, on a tendance, même au niveau des gardiens, même les gardiens de champs, même au niveau de certaines personnes domestiques, sachant bien à partir de quoi proviennent les ressources de leur employeur sont en tendance à ne pas être honnête parce que parfois l'honnêteté ne paye pas. Donc en réalité, quand on regarde du sommet de la pyramide sociale à la base, je ne dis pas que tout le monde est corrompu, parce qu'en réalité il peut être des gens qui ne sont pas corrompus, parce qu'en réalité, à la limite, j'oserais risquer le mot, ils ne sont même plus normaux parce qu'ils ne sont pas dans une situation de normalité. Ou bien ils ont la chance de ne pas passer à côté. Parce que on ne peut pas être dans un certain milieu avec dans un certain... Quand on se marginalise, on a toujours une certaine répression, comme il le disait tantôt. S'ils veulent que tous les frères, tout le monde soit employé, c'est parce qu'ailleurs ça a été fait. Sinon, le sentiment premier, c'est quoi? C'est la chose publique, ce n'est pas à nous. Donc, qu'il le fait correctement. Si maintenant, la tendance, la réflexion a changé, mais tout le monde en abuse, c'est un comportement nouveau.
Mais selon vous, où se situent les responsabilités alors?
Je l'ai dit, mon premier mot, je ne veux pas... Le premier, quand il y a dans une société de la corruption, et notamment la corruption africaine, je veux avoir une illustration que beaucoup n'ont pas remarqué. C'est au sommet. Dans mon document, je le dis, c'est au sommet. En réalité, quand on considère en Afrique, parfois, il y a tout de suite, dans la famille présidentielle, un être dominant. Il est repéré de l'extérieur. En peu de temps, il devient riche. On le conquête des choses dans lesquelles il aura de l'argent. Mais ceux qui le conquêtent ne s'oublient pas. Mais c'est l'État qui est le grand perdant. Je veux te parler d'un petit phénomène qui est passé au Mali, qui était une généralisation de la corruption, mais les gens n'ont pas fait attention à ça. Et ce n'est pas par irrespect, mais c'est par devoir, et surtout même par rapport à ce que ceux qui devront représenter, ceux qui devront être, leur statut. Et même, c'est pour cela que je le dis. Et quand le premier président sortait, à la suite de la cocaïne, il y a eu pas mal de choses, pas mal de versations. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démis tous les directeurs nationaux, tous ceux qui sont à côté. Pourquoi il a fait? C'était simple, il peut avoir plusieurs raisons. Il les livre à la justice, et il avait déjà parlé avec la justice, parce que je me rappelle de certains mots qui ont été dits. La justice lui a répondu pour dire que chaque pouvoir mérite sa justice. Mais il n'y a rien eu. Après, ils ont tous revenu à leur poste. L'autre qui le suit, il a dit qu'il ne met personne en prison, autant dire qu'il est avec tout ce qui détourne. C'est une manière de le dire. Parce qu'en réalité, la distraction de ces ressources-là, par lesquelles on doit assurer en réalité le développement, toute une société, tout un pays ne peut pas être heureux, mais mieux on utilise les ressources, plus le grand nombre est intéressé. Alors s'il dit qu'il ne met personne en prison, c'est qu'il est avec le restreint qui prend tout à sa charge. Mais le troisième qui est avec nous, il dit qu'il ne sait même pas là où se trouvent les juges, parce qu'il a dit une chose très importante. Il dit que personne, et il l'a dit de manière très sérieuse, personne ne peut dire que lui, il a retenu un dossier du Végal par devers lui. Pour empêcher le processus. Mais autant dire qu'il ne trouve pas, il ne sait pas là où se trouvent les juges pour leur demander qu'est-ce que vous attendez.
D'accord. Alors, Monsieur Camara, pensez-vous également que les responsabilités se situent au niveau du sommet avant voilà, de descendre à la chaîne?
Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec mes prédécesseurs que effectivement la faute incombe un peu aux dirigeants, en ce sens que tantôt mon prédécesseur M. Keïta avait parlé de moralité. Voilà, si je vais me référer à la Première République, le régime socialiste avec le père du Mali indépendant, Modibo Keïta, de 1960 à 1968, voilà que cette autorité avait inculqué un sens élevé de la citoyenneté aux Maliens. En son temps, des gens soupçonnés de corruption préféraient se suicider que de connaître l'humiliation de la prison. Voilà, progressivement, et on inculquait cette citoyenneté-là à travers des programmes dans les écoles, l'éducation civique et morale. Voilà, ça a été affaibli au fil des années. Souvent même, ça a été même carrément enlevé du programme. Et voilà pourquoi les gens n'ont plus le sens, ce sens élevé-là de la citoyenneté. Cette faute incombe aux dirigeants. La faute incombe encore, si vous voulez bien, à ces dirigeants, parce que, comme, en tout cas, voilà, j'étais en train de le dire tantôt, parce que ils ne prennent pas des actions concrètes. J'étais en train de parler, et comme je le disais, je suis d'ailleurs auteur d'un article sur la corruption. Il s'agit des grands axes de la lutte contre la corruption à travers les différents régimes de 1960 à 2008. Et c'est vrai que dans l'article, j'ai dit que c'est vrai, il est très difficile de comparer les régimes parce que les ressources en jeu ne sont pas les mêmes, les contextes ne sont pas les mêmes. Mais ce qui est sûr, si un régime jusque-là a su mieux lutter, c'est le régime socialiste, qui en son temps, en juillet 1968, avait initié ce vaste programme appelé Opération Taxi. Et suite à cette opération, plus de 1000 véhicules qui avaient été détournés des biens de l'État ont été saisis et ensuite retournés à l'État. Et depuis, les autres se sont juste contentés, voilà, de faire des déclarations sur la lutte contre la corruption. Donc, à ces deux niveaux, la faute incombe aux dirigeants. Il y a également nous qui sommes dirigés. Nous avons notre part dedans. J'étais en train tout de suite de vous dire qu'on nous inculque ça en famille. On nous fait comprendre que c'est normal, que c'est comme ça qu'on doit être. Au fait, on est les citoyens gauches, on est les citoyens non bénis que quand on refuse ces choses-là vis-à-vis de sa famille. Je vais prendre un exemple, puisque je suis enseignant. Et souvent, les gens trouvent que c'est très normal, puisque j'appartiens à une famille, que quand voilà, j'ai des cousins, des cousines qui ne s'efforcent pas de bien travailler à l'école, on vient me voir pour me dire « Ben, Camara, voilà, il faut faire ça, il faut l'aider à passer, il faut, voilà. » Et quand je refuse, et souvent on me dit « Ben, tu n'as pas eu ton doctorat comme ça de toi-même, tu as été aidé. Des gens ont bien été là, tu as été pistonné. » Même si, je veux dire, on n'a jamais arrangé un examen pour moi, je me suis toujours efforcé d'apprendre. Mais ils veulent dire que mon école a été financée par des gens et que la famille passe avant tout. Et cette faute n'incombe pas aux dirigeants, mais plutôt à la société. Parce que la société même a tendance à légitimer la corruption. C'est là où j'étais en train de parler du coût et avantage. Quand les coûts sont minimes, la société préfère fermer les yeux. Là, ça profite à tout le monde. Voilà. Et quand généralement, effectivement, les coûts sont très élevés, et là, maintenant, les gens préfèrent ensuite dire que ah, ça, c'est de la corruption.
Mais selon vous, quelles peuvent être les conséquences de cette corruption-là sur l'avenir de la société,
en
général ?
Les conséquences sont tellement multiples que je ne sais même pas par où commencer. Et je vais me référer à Machiavelli en son temps, qui avait dit que la corruption est ce phénomène-là qui détruit la vertu de la personne. C'est-à-dire, il voulait dire la bonté de la personne. C'est un phénomène qui détruit la bonté même de la personne. Et ça implique tout le reste. Et si aujourd'hui nous sommes là et que nous vivons cette crise multidimensionnelle, nous savons très bien que la corruption joue en tout cas un grand rôle, si vous voulez bien, dans cette crise. Et même quand vous voyez ceux dont les Maliens sont devenus, tout ça c'est à cause de la corruption qu'on a légitimé, qu'on a préféré négliger. Et voilà, nous payons les frais. Il n'y a plus de sécurité, il n'y a plus d'éducation. Il n'y a plus de santé. Même des domaines où on ne pouvait pas s'imaginer les agents se vendre ou s'approprier des biens de l'État. Et cette culture-là a disparu. Je ne vois aucun secteur du développement de l'État qui n'est concerné par la corruption. Au fait, même à un moment où le Mali vit cette crise profonde, où on se dit, c'est le sursaut national, enfin des gens vont se réveiller, ben, ils ne vont pas cesser d'être, c'est-à-dire ils ne vont pas arrêter la corruption, mais ils vont juste c'est-à-dire la mettre en stand-by, les gens profitent encore mieux.
D'accord. Alors, M. Touré, êtes-vous du même avis que M. Camara concernant les conséquences de la corruption sur l'avenir de la société?
Sur certains plans, notamment quand tu parlais de... Comme je suis beaucoup plus âgé que tous, quand tu parlais de l'ancien régime et quand tu parlais de la vertu des vertus des dirigeants, je voudrais rappeler, on nous écoute, que à l'OPAM et même à la SOMIEX, les premiers cadres, certains agents ne savaient pas écrire. Et que l'argent, on le cumulait dans des sacs et les gens se les transportaient comme ça, sans l'avoir écrit, et que ça arrive à bonne destination et on compte. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et maintenant, avec tout ce que l'on a comme moyen informatique, l'utilisation que l'on fait de cela. Et il n'y a pas plus de... Je vous le dis, ce qui fait une grande nation, ce qui fait un grand pays, d'ailleurs qu'on pense tout le temps à nous le dire, et j'ai eu la chance d'être avec deux grands de ce pays par l'histoire, par leur nom, mais je ne les envie pas beaucoup, bien que je suis touré. En fait, on nous dit qu'on est grand, on est ça, et la vertu est ça, mais on nous le dit pour nous rabougrir. En réalité, il n'y a pas plus que la vertu, je vous dis que c'est un réflexe. Je veux vous lire quelque chose. L'honnêteté, la franchise, le courage doivent être développés par des procédés employé dans la construction des réflexes, c'est-à-dire sans raisonnement, sans discussion, sans explication. En un mot, on doit être conditionné. Il nous conditionne quand il dit que non, nous sommes responsables. Nous ne sommes pas aussi responsables que ça. On ne peut pas trouver un père de famille dévergondé et honté, voleur, menteur, et que son enfant soit menteur et on parle du mensonge du père, de l'enfant. L'enfant aussi est menteur, dévergondé et honté, mais on n'a pas le droit d'en parler. Il n'est responsable en rien du tout. Lui, il a été tout juste légitime. Voilà ce que je peux développer.
Oui, allez-y, monsieur. On revient au titre. Ah oui, allez-y.
En tout cas, je voudrais dire à mon aîné qu'en la matière, en tout cas, les avis sont partagés. Moi, je suis pour un nouveau paradigme, celui dans lequel l'individu a toujours le choix. Tantôt, il avait évoqué, il avait dit, plus les gens sont riches, plus ils sont tentés par la corruption. Ça veut dire qu'au fait, il faut voir la cause ailleurs. Voilà. Il ne faut pas simplement penser que nous avons été conditionnés comme ça. Oui, comme je l'ai dit, j'ai dit que la faute, elle est partagée. Il y a les dirigeants et il y a les dirigés. Il y avait un élément important que j'avais oublié d'évoquer, qui va peut-être expliquer le conditionnement des Maliens tels que nous sommes aujourd'hui. C'est l'avènement de la démocratie. Et si vous voulez bien, en 91. Je ne suis pas antidémocratique, mais je pense que la démocratie est un facteur stimulateur de la corruption. La démocratie est toujours accompagnée de ce qu'on appelle le partage du gâteau. La démocratie va de pair avec ce qu'on appelle l'état de droit. Tout ça là complique la lutte contre la corruption. En fait, quand je demande aux jeunes de battre campagne pour moi, mais ce n'est